Nous sommes toujours au Festival du Livre de Moinsartou et nous avons le plaisir de recevoir Agnès Besson. Agnès Besson, vous êtes docteur en philosophie, c'est ça?
Oui, c'est ça, absolument. Docteur en philosophie et je travaille comme chargée de cours à l'Université de Nice dans les départements d'anthropologie et ethnologie et le département également des sciences de la communication, InfoCom.
Alors aujourd'hui, on ne va pas parler de philosophie exactement, mais plutôt d'un aspect tout à fait militant puisque vous êtes adhérente à ATTAC. Alors d'abord, qu'est-ce qu'ATTAC?
Alors ATTAC, c'est une association qui date de 1998, puisque nous avions fêté nos 20 ans au Festival du Livre d'ailleurs de Moinsartou en 2018. Et pour l'expliquer simplement, c'est une association qui au départ a pour vocation de militer pour la taxation des transactions financières. Donc on avait peut-être un peu un temps d'avance, mais à l'époque, on s'est inspiré entre autres d'un économiste américain qui s'appelait Tobin et qui avait donc la fameuse taxe Tobin. On pensait que cet argent lié à la spéculation financière échappait évidemment aux États et c'était une manne qui malheureusement ne pouvait être récupérée. Donc, tout simplement, c'est ça vraiment au départ. Alors, on est toujours sur la question de la justice fiscale, telle qu'on peut la définir avec quelqu'un comme Thomas Piketty, l'économiste. Mais au-delà, on cherche vraiment maintenant à montrer que ce point est devenu essentiel en ce qui concerne la transition écologique, puisque les États ont besoin de ressources pour vraiment passer à la vitesse supérieure concernant cette transition. Et on voit bien à quel point nous en manquons. Donc, on a vraiment... je dirais au cœur de notre action la volonté de lier justice fiscale, ce qui est au départ l'identité même d'ATTAC, la justice fiscale, la justice sociale et la justice climatique. Voilà.
J'en reviens à cette taxe Tobin. Pourquoi cette taxe donc, qui a priori devait être un pourcentage assez faible sur toutes les transactions financières, notamment en Europe, qu'est-ce qui a fait qu'elle a échoué, qu'on n'a pas pu la mettre en place?
Il y a un niveau de résistance quand même très très fort des États. Alors on sait qu'à un moment Merkel avait un petit peu évoluer sur... Enfin, la difficulté, c'est de toute façon qu'on trouve un accord européen au sein de l'UE. Et là, on a du mal. Regardez ce qui se passe actuellement sur les super-profits. On n'arrive pas du tout à harmoniser. On pourrait chercher à harmoniser. Sinon, chaque État, de son côté, prend des mesures, etc. Donc, je pense que c'est ça, la vraie difficulté. C'est qu'une fiscalité juste ne peut être qu'européenne. On peut pas au-delà, évidemment, mais en tout cas, dans l'espace de l'UE. Et pour le moment, on n'arrive pas du tout à avancer sur ce point, très insuffisamment. Et en tout cas, c'est souvent des décisions nationales.
Alors, ce mot de super profit, on l'entend depuis quelques temps, on ne l'entendait pas avant. Pourtant, je pense que les profits devaient être à peu près identiques, non?
Vous avez complètement raison. Mais c'est vrai qu'on est obligé, malheureusement, peut-être, mais dans le monde dans lequel nous vivons, la communication est essentielle. Donc, il y a parfois, effectivement, des termes qui doivent résonner plus fortement. Donc, on pourrait dire méca, hyper profit, etc. Le terme de super profit, il parle à tous. L'idée, ce n'est pas de... je ne sais quoi, une croisade contre les riches. On entend souvent ça, c'est d'ailleurs très désagréable. On nous fait le procès selon lequel, au fond, on serait comme ça dans un discours anti-riche. Bon, c'est pas du tout le propos, en fait. Et je dirais même que les riches en soi, individuellement, enfin, on n'est pas du tout dans l'attaque ad hominem, Bernard Arnault, etc. Enfin, non, c'est vraiment un mécanisme que l'on dénonce, un système qui fait que... Mais d'ailleurs, tout le monde, maintenant, s'en rend compte. Enfin, c'est ce qu'on disait dès 98 pour ATTAC, qui était assez peu audible à l'époque, mais maintenant, on a des chiffres. Enfin, tout ça est documenté. Et je lisais, pas plus tard qu'hier, dans Marianne, qui n'est pas du tout un organe de presse, on ne peut plus radical ou gauchiste, un petit article qui rappelait simplement cet élément-là. Il faut savoir qu'au premier semestre, une entreprise comme Total, Total Energy, a réalisé 18,8 milliards de bénéfices. Donc là, je pense que tout à coup, on se rend compte, à travers cette crise énergétique notamment, et c'est bien dommageable que ce soit la crise qui réveille vraiment profondément les consciences, que ça n'est plus soutenable. Je pense qu'au niveau de l'opinion publique, ça n'est plus audible. On est sur des inégalités sociales qui sont absolument criantes. Et depuis 98, je pense que les chiffres sont de plus en plus accablants.
C'est vraiment le mot justice sociale, en fait.
Oui,
ATTAC milite pour ça, œuvre pour ça.
Oui, oui.
Alors, quelle forme peuvent prendre les actions d'ATTAC?
Elles sont très diverses. Alors au départ, ATTAC, c'est un peu un reproche qu'on a pu lui faire, qu'on a pu faire à l'association. Ce sont beaucoup d'universitaires. On a un conseil scientifique avec les fondateurs, etc. Et donc, il y avait la volonté, c'est vraiment un mouvement d'éducation populaire. Via des publications, on a beaucoup de publications à TAC, via des publications, via des conférences, etc. Vraiment de diffuser les informations économiques qui sont toujours un peu arides. Ce sont des mécanismes assez complexes, enfin, et qui, en plus, bénéficient de cette complexité, quelque part. Il y avait cette volonté-là très très forte. Donc ça, quand moi j'ai adhéré en 2002, puisque j'ai adhéré au moment où Jean-Marie Le Pen est arrivé au second tour, voilà, à titre personnel, je ne pouvais pas rester impuissante.
C'était le déclencheur.
Ça a été le déclencheur pour moi, oui. Oui. Et donc là, à cette époque-là, on était vraiment sur ce registre-là. Et avec les réseaux sociaux dorénavant, on ne peut plus se contenter de ça. C'est-à-dire qu'on est obligé d'avoir une communication beaucoup plus percutante. Enfin, on s'est adapté. On est aussi beaucoup sur des actions, un peu ce qui relevait autrefois de l'agit-prop. Enfin, on est obligé d'être... Et donc là, on cherche des partenariats aussi. Hein, pour faire et donc, c'est ce qu'on a fait là récemment. On a reparlé pas mal d'attaques il y a 15 jours avec l'action au Bourget concernant les jets et une action à laquelle j'ai participé à Antibes le samedi 24 septembre sur le quai des milliardaires. Voilà. Alors, c'est une action qui est évidemment symbolique. On était quelques militants et on a symboliquement simplement bouclé l'accès au quai des milliardaires. Mais on a fait venir la presse et ça a un impact médiatique, immédiat. Même si derrière, il y a tout un travail de fond et de réflexion, bien sûr.
En fait, au départ, c'est la diffusion du savoir plutôt que de la contestation pure et simple.
Les deux vont de pair. C'est-à-dire que l'idée, c'est effectivement d'élaborer un savoir qui permette de faire avancer notre cause militante. Moi, si je suis à TAC, peut-être, parce que en tant que peut-être universitaire, je suis particulièrement alertée sur ça, c'est que je trouve qu'il y a un niveau de déculturation. Enfin, je ne veux pas paraître trop rétrograde, mais il y a quelque chose en termes éducatifs. Je le vois, j'étais encore hier après-midi avec des étudiants et par exemple, j'évoquais la figure d'Annie Ernaux qui venait d'obtenir le prix Nobel. Aucun d'entre eux ne la connaissait, mais même de nom. On ne peut pas la lire parce qu'on ne lit pas forcément la littérature. Et je mesurais, enfin, je me disais, je suis avec des étudiants en langue supérieure. Et donc, je pense qu'il y a une foultitude d'informations, il y a une hyper-information qui est calamiteuse quelque part. Donc, je pense que des associations comme la nôtre doivent faire ce travail éducatif, recentrer sur les enjeux expliqués. Donc, ce travail pédagogique, je ne pense pas qu'il faille y renoncer. Mais nous sommes aussi dans l'obligation, mais en même temps, c'est assez jouissif, ces petites actions comme ça, contestataires. On est obligé aussi de visibiliser notre contestation. C'est ça le nouvel enjeu, si vous voulez.
Parmi les fascicules qui sont édités par votre association, il y en a un qui est intitulé « Pas avec notre argent, petit guide pour prendre le contrôle sur la finance ». Alors comment prend-on le contrôle sur la finance ?
On essaye déjà de conscientiser les gens. Je pense qu'après, il faut qu'il y ait un niveau de conscience générale. La difficulté, on voit bien ce qui va se produire cet hiver, c'est que les gens vont être sur leurs factures de consommation, etc. Ils vont être obsédés par ça. Et donc l'idée, c'est il y a ça. Et puis à côté, il y a des mécanismes économiques qui font que le profit de Total cette année, etc., sachant que Total n'a pas payé d'impôts en 2019 et en 2020, il y a des mécanismes d'échappement à l'impôt aussi, très très fort. Alors au niveau des entreprises, des organisations, et puis au niveau individuel aussi, et ça on a toujours lutté à la fois contre l'évasion fiscale, les paradis fiscaux. Quand nous étions sur le quai des milliardaires l'autre jour, tous les yachts qui étaient sur le quai étaient des yachts avec des pavillons de complaisance, évidemment. Donc on a ce mécanisme comme ça d'évasion fiscale, évidemment, d'une part avec les paradis fiscaux, mais aussi d'optimisation fiscale. C'est-à-dire qu'on sait bien que quand on a les moyens de s'offrir les services d'un avocat fiscaliste, on échappe à l'impôt proportionnellement, beaucoup plus que quelqu'un qui doit, alors avec un niveau de TVA, etc. Bon, tout ça fait qu'on a un système fiscal qui... Mais je pense que c'est reconnu majoritairement, ça, qui ne fonctionne plus, qui fait que les États sont pris à la gorge et qu'on a aussi maintenant parfois des fortunes personnelles qui dépassent ce dont certains États disposent. Il y a une forme d'obscénité. Alors, je ne veux pas moraliser nécessairement parce que je pense qu'ATTAC cherche à montrer aussi la manière dont économiquement ça fonctionne, de démonter ça de manière objective.
Non, on ne parle pas d'ennemis.
Il ne faut pas être que sur le terrain affectif, mais quand même. J'emploie ce terme-là, il y a une forme d'obscénité.
D'indécence, absolument.
D'indécence, absolument.
En tout cas, il y a aussi un domaine sur lequel on pourrait dire rejaillit tout ça, c'est l'écologie aussi.
Bien sûr, bien sûr.
Est-ce que ça fait partie de la, des luttes aussi d'attaque?
C'est venu très tôt, en fait. C'est-à-dire, bon, au départ, donc, on avait cette question de la justice fiscale. Et puis, très rapidement, je me souviens d'un rapport qu'on avait publié il y a une quinzaine d'années au moins, qui évoquait la question de la transition écologique de manière très, très, très programmatique, en disant qu'au fond, il fallait que les États donc, remettent la main sur ces sommes colossales qui échappent à l'impôt, hein, d'une part, parce qu'il fallait préparer la transition écologique et que cette transition, par exemple, supposait un niveau de formation des individus, puisqu'elle allait considérablement impacter les activités, hein, et un certain nombre de secteurs dans le domaine industriel. Il fallait amener les gens, les préparer, hein, à changer de boulot ou à évoluer dans leur travail, etc., puisqu'on allait avoir affaire à de nouvelles normes, notamment écologiques, etc. Bon. Donc ces enjeux-là, ils sont connus depuis longtemps, depuis longtemps. Et on se retrouve là maintenant à dire aux gens, bah voilà, vous n'allez plus pouvoir rouler au diesel, vous n'allez plus pouvoir utiliser votre chaudière, elle est condamnée à terme, c'est-à-dire si elle tombe en panne, vous ne pourrez pas la remplacer. Bon, c'est quand même des choses qui étaient anticipables. Et j'ai le sentiment que là, on a tellement, tellement attendu qu'on est, là encore, les individus, alors au niveau individuel comme au niveau des États, on est pris à la gorge.
Les pays scandinaves sont quand même plus avancés que nous pour ce genre de réflexion.
Alors, oui.
Ça dépend desquels. La Norvège a du pétrole, mais bon.
Oui, voilà, exactement. Alors, donc, ça dépend, évidemment. Alors, on est sur des énergies renouvelables. Oui, certes, l'Europe du Nord est plus vertueuse. Bon, après, on est sur d'autres types d'économies, des populations qui sont moins importantes aussi. Et nous, en France, on est effectivement un peu partagés entre la tradition, deux traditions, finalement. L'Europe plus latine, du Sud, et puis l'Europe du Nord. Bon, je crois qu'il faut... Je ne sais pas, moi je suis pro-européenne. Je pense qu'ATTAC n'est pas du tout anti-UE par principe. Hein. Je pense qu'au contraire, il faut vraiment agir au niveau européen. Je pense que la réponse exclusivement nationale, souverainiste, elle est vraiment insuffisante. Et le problème, c'est ce qui se passe actuellement. C'est que politiquement, c'est plutôt ces réponses populistes, hein, qui prennent le dessus, y compris dans un pays comme la Suède. Hein. C'est ça qui est terrible. C'est qu'il y a un repli identitaire très très fort. Donc moi, je crois à une réponse européenne. Mais il faut vraiment agir au niveau du Parlement. Et on sait bien que la Commission ne joue pas le jeu démocratique, hein. Ça c'est évident. Il y a un vrai problème institutionnel, et bon, évidemment que le traité de 2005 contre lequel nous avons évidemment lutté a été catastrophique dans le message qu'il a envoyé, enfin la façon dont les choses se sont passées. Je pense qu'il y a, d'un point de vue démocratique, c'est une date, quoi, hein, dans l'histoire des démocraties occidentales, enfin au niveau européen. Ça a des effets encore, des répercussions. Enfin, je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à restaurer la confiance des peuples dans leur gouvernement, et on n'en prend pas du tout le chemin.
Pour en venir à ATTAC, c'est une association qui compte combien d'adhérents environ?
C'est une bonne question. Je sais qu'on était très très nombreux il y a une quinzaine d'années. Le groupe se réduit. Et bien, écoutez, je dirais, mais alors je ne voudrais pas me tromper. Je dis non, on n'est plus 30 000, je ne sais pas. Peut-être que... 10 000, je sais. J'ai un doute.
Est-ce qu'il y a un site pour ATTAC si
on
veut des infos?
Oui, il y a un site. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Je ne suis pas tellement amie des chiffres. Mais on a eu notre AG national le week-end dernier. Donc on a un nouveau CA avec de nouveaux porte-parole, etc. Enfin, tout ça va se mettre en place. Non, c'est une association importante. C'est vrai qu'on... Peut-être qu'on aurait besoin d'un peu de sang neuf, quoi, de renouveler un petit peu nos adhérents. Mais on essaye, hein, au niveau local. Voilà. Alors, au niveau local, on est à peu près 120 au niveau niçois. Enfin,
vous-même, vous êtes sur Nice.
Voilà. Enfin, moi, je milite directement sur le groupe d'attaque Cannes-Grasse, hein, le groupe local, là, autour de Montsartre. D'ailleurs, on se réunit à Montsartre une fois par mois. Mais nous avons trois pôles sur ATTAC 06. On est donc à Montsartou, Antibes et Nice, parce que n'est pas toujours facile de circuler dans le département, donc c'est pour ça. Mais en revanche, on a beaucoup, beaucoup d'actions en commun. Et donc, ATTAC 06, ça doit, je ne sais pas, peut-être 120, 150 adhérents, je ne sais pas exactement. Il faudrait que le secrétaire général, Patrick Fedela, soit là pour le confirmer. Mais, et en revanche, on a une bonne cinquantaine, hein, peut-être un peu moins, à vraiment militer, c'est-à-dire à être actif. Oui, c'est ça, réparti sur une bonne dizaine, une douzaine ici à Montsartou, un peu l'équivalent Antibes, un peu plus à Nice. mais on a besoin de son œuvre, ça c'est évident.
Vous avez des réunions ou des conventions nationales une fois par an?
Ah oui,
une fois
c'est très, très organisé au niveau national. Oui. C'est très très organisé au niveau national, mais en revanche, il y a des comités locaux hein, dans chaque département, et sur le terrain, c'est vraiment ces comités locaux qui sont actifs. On a une réunion, par exemple, pour le groupe auquel j'appartiens, et si tous les groupes fonctionnent comme ça, on a une réunion mensuelle, le deuxième lundi de chaque mois à Montsartou, et on fait donc le point à la fois sur ce qui se passe au niveau national, mais aussi sur nos actions locales. Et on essaye de mettre en place, hein, dans la durée des actions. Sur Montsartou, nous avons décidé, depuis l'an passé, de faire des soirées ciné-débat, parce qu'on trouve que le cinéma, c'est un bon vecteur. Ça peut être rébarbatif ce qu'on propose, enfin, rébarbatif, c'est vrai. Ça peut paraître théorique, etc. Donc on s'est dit que le cinéma est un bon vecteur pour amener des gens à réfléchir, etc. Et donc on a, depuis l'an dernier, des soirées ciné-débat. Et là, on va recevoir vendredi, alors je le dis, parce que je ne sais pas si quand l'émission sera diffusée, mais vendredi 14 octobre, on va recevoir Monique Pinson-Charlot pour le documentaire là, qui en plus donc ce sera un hommage évidemment à Michel Pinson, son mari, donc le documentaire À demain mon amour, et on va donc réfléchir évidemment avec Monique Pinson-Charlot sur cette question des ultra-riches hein, et la manière dont elle a cette phrase assez amusante, enfin, avec Michel Pinson, parler de collectivisme pour cette sorte de caste, hein, ni plus ni moins. Ils dénonçaient tous les deux les méfaits de l'individualisme au niveau des classes moyennes et classes populaires. Elle parle d'un collectivisme de manière évidemment ironique, hein, d'un collectivisme concernant cette caste d'ultra-riches, puisqu'ils ont, c'est bien, des cooptations, etc., d'entre soi, enfin d'entraide, voilà, ils sont très très, eux ont une conscience de classe, enfin, ils finissaient par dire hein, l'un et l'autre et dans leurs travaux au CNRS au fond c'était peut-être la seule classe qui restait avec une profonde conscience de classe, voilà. Ça c'est le 14 octobre et on est très très content de pouvoir recevoir Monique Pinson-Charlot, et puis on va sans doute au mois de novembre faire venir alors Gilles Perret ou en tout cas un des acteurs du film. Gilles Perret vient de faire une fiction et là tout à coup le titre m'échappe. Je ne l'ai plus en tête, mais c'est une fiction. Alors, il y a Laetitia Deutsch et puis de la Donchamp, là, son besoin. Donc, des acteurs de fiction. Hein, et ils parlent évidemment de la casse sociale dans les usines quand il y a un rachat fait de manière extrêmement violente et que les salariés sont mis devant le fait accompli. Et là, on a des salariés qui décident de s'activer, de militer, de récupérer, en termes marxistes, les moyens de production.
Alors, le film s'appelle peut-être Reprise en main.
C'est... Voilà, c'est ça, merci. Donc ça, ce sera en novembre, voilà. Voilà, Reprise en main.
Enfin, Agnès Besson, Attaque, vous avez une adresse
Vous avez Attaque Nationale, il suffit de taper Attaque hein, vous tombez dessus tout de suite. Et nous, à notre niveau, eh bien, Attaque 06, on a un site, alors je crois qu'il n'est pas toujours très aimé, on nous retrouve quand même beaucoup sur les réseaux sociaux. Et puis c'est vrai qu'au niveau national, fort heureusement, on a quand même des porte-paroles qui sont très actifs et tout. Donc je sais que quand on a fait notre action sur le quai des milliardaires Antibes, on avait quand même beaucoup de presse. Hein. Voilà, on avait même l'équipe de Quotidien, etc. etc. Donc on arrive quand même, heureusement, à mobiliser les médias. Mais on est obligé pour ça d'être visible, quoi, et donc de penser des actions qui... ce qu'on faisait moins autrefois, parce que je pense que la nécessité était moindre, mais là, maintenant, on est obligé de vraiment se visibiliser. Hein. C'est le grand enjeu, évidemment.
Alors peut-être une campagne pour avoir de nouveaux adhérents.
Ah oui, ce serait formidable ça. Non, non, mais il faut, venez à Attaque, adhérer. On est très sympathiques. Après nos réunions, il y a toujours un pot, etc. Et voilà, les nouveaux adhérents sont les bienvenus.
Donc Attaque, Association pour la taxation des transactions financières et l'action citoyenne quand même.
Absolument, action citoyenne, assez, on oublie toujours, mais c'est action citoyenne, absolument. C'est vraiment lié. C'est même la condition sine qua non pour que la citoyenneté existe. Moi, c'est surtout ça l'enjeu. Je pense que l'enjeu, il est profondément démocratique.